en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
La vertu, tel était le thème de la journée d'études organisée à l'Académie des sciences morales et politiques le 12 décembre 2007 à l'initiative du Centre de recherche en théorie générale du droit. Plusieurs académiciens et juristes sont intervenus, successivement Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Sernin, Jean Tullard, Alain Chartier et Philippe Mallory. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de leurs interventions. Dans cette émission, Canal Académie vous propose d'écouter Bertrand Saint-Sernin. Ancien recteur d'Académie, il est professeur émérite de philosophie des sciences et théorie de la connaissance à l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques où il siège dans la section philosophie. Bertrand Saint-Sernin s'est penché sur les morales de la vertu et tout particulièrement sur la conception antique de la vertu dans sa différence avec la conception chrétienne. Il montre que la vertu n'est pas l'apanage du sage et insiste sur son interaction entre les êtres.
Je commencerai en disant que monsieur votre frère a fait preuve peut-être d'une certaine imprudence en acceptant parmi les orateurs quelqu'un qui a été professeur de philosophie, mais de philosophie des sciences, et qui donc de sa vie n'a jamais eu l'occasion de parler de la vertu. Si bien que je me suis reporté à un dictionnaire. Madame le secrétaire perpétuel, vous m'excuserez de m'être reporté au dictionnaire de philosophie morale des PUF, et qui consacre au moral de la vertu deux études substantielles, dues l'une et l'autre à deux Anglais. Et on y note ceci. Les morales de la vertu sont des morales dont la source est grecque, comme Madame de Romilly nous l'a dit tout à l'heure, et l'auteur le plus fréquemment invoqué est Aristote, à un moindre degré Platon et les stoïciens. Deuxièmement, ces morales intègrent la psychologie, puisqu'elles cherchent à définir des attitudes constantes, des caractères, des volontés, des habitus. Les penseurs anglais les plus souvent cités dans ces dictionnaires ne font jamais part de leur culture chrétienne, ni non plus de la révolution anthropologique que le judaïsme et le christianisme font subir à la pensée grecque. Et pour s'en rendre compte, il suffit de comparer Aristote et saint Thomas d'Aquin qui parlent l'un et l'autre de la vertu, ou par exemple les stoïciens et saint Augustin sur le chapitre des passions. Le quatrième point qui m'a frappé aussi, c'est que ces théoriciens des morales de la vertu insistent sur l'importance que la morale doit attacher à la psychologie, mais aucun d'eux n'appuie sa réflexion sur les moralistes français, pourtant observateurs si attentifs des comportements humains. Et enfin, la cinquième singularité de ces livres que je découvrais, je dois le dire, c'est que les exemples choisis ressortissent le plus souvent à des petits incidents de la vie privée, alors que les morales de la vertu sont liées en leur fond à la vie collective et à la politique. Leur mérite est en effet de lancer un pont entre la vie privée et la vie publique par l'attention qu'elles portent aux cas particuliers et aux qualités requises pour résoudre des problèmes qui, ou par leur fréquence ou par leur gravité, constituent des soucis politiques, même s'ils ne se manifestent que sous la forme de cas individuels. Donc, les morales de la vertu sont des morales de l'accomplissement, et Aristote, comme Madame de Romilly nous l'a dit tout à l'heure, consacre à l'étude des vertus une grande partie, par exemple, de l'éthique à Nicomaque. Ces analyses sont reprises dans le christianisme, en particulier par saint Thomas. Il s'agit, au fond, pour chacun, de discerner ce pourquoi il est fait, d'y être fidèle. Découverte qui est à la fois spirituelle, intellectuelle, affective et même corporelle. Il s'agit de trouver sa vocation, le talent dont on est pourvu et que l'on doit faire fructifier. Le deuxième point qui est très frappant, c'est que les morales de la vertu sont des morales de la véracité. elles insistent aussi sur l'interaction. Chacun est censé rechercher le bien des autres, autant que le sien propre, les deux allant de pair. Et quand il y a conflit, les morales de la vertu cherchent des voies pour les arbitrer, pour le résoudre le problème. Alors, puisque nous sommes dans une perspective où le droit a une place éminente, en quoi cela peut-il intéresser le droit ? Alors, Platon le montre dans les lois, c'est que, d'abord, les institutions peuvent faciliter ou entraver la recherche individuelle et collective de la vocation des individus et des cités. En d'autres termes, les morales de la vertu ont d'emblée une dimension sociale et politique, et on peut parler de la vertu des individus, mais aussi des collectivités, y compris des nations. La dimension politique des morales de la vertu se trouve augmentée par la forme qu'a prise le rationalisme aujourd'hui. En effet, prenons la vie scientifique, chacun dans sa propre spécialité, continue de travailler selon les méthodes du rationalisme classique, c'est-à-dire de vérifier par lui-même les assertions qu'il propose ou qu'il risque, mais chacun doit faire confiance à ses pairs des autres spécialités, et donc la rationalité est directement liée au crédit que l'on peut faire aux découvertes des autres et à la véracité dont ils font preuve pour en faire part. Et troisièmement, il y a une condition aussi tout à fait nouvelle, c'est que chaque spécialiste doit communiquer de façon pas trop technique aux autres scientifiques d'une part, mais aussi à l'ensemble des citoyens, d'un État, d'une nation, les résultats auxquels il arrive, l'esprit dans lequel il a entrepris des recherches, puisque finalement, les acquis des sciences et de la technologie ont un impact sur la vie de chacun d'entre nous et sur le comportement collectif. Alors, je crois que pour comprendre un petit peu les morales de la vertu, il faut partir d'une notion qu'a expliqué Aristote, c'est la notion du juste milieu, qui est une notion sur laquelle on peut commettre très facilement des erreurs. Pour s'approcher de la fin qu'elle vise, c'est-à-dire l'accomplissement de l'individu et des collectivités dont les individus font partie, les morales de la vertu s'inspirent de la recherche du juste milieu tel que le définit Aristote. Alors, le juste milieu ne ressemble ni au milieu d'un segment de droite, ni à une moyenne arithmétique et statistique. C'est l'intensité la plus grande d'une qualité qui peut être maintenue de façon durable dans une action, sans nuire à l'exercice d'une autre qualité, elle aussi indispensable à l'exécution de cette action. Autrement dit, le juste milieu, c'est un maximum. Il maximise une sorte de périmètre dont chacune des faces dessine la frontière entre le degré d'une qualité que l'agent peut soutenir durablement et un degré supérieur que ce même agent ne peut pas maintenir longtemps dans l'accomplissement de l'action en cours. Je prends un exemple. Imaginons une ville assiégée qui attend des secours. Le juste milieu pour les secours consiste à cheminer à l'allure la plus rapide, qui peut être soutenue de façon suivie, de telle sorte que la distance à parcourir soit franchie le plus vite possible, mais que les renforts n'arrivent pas épuisés et incapables de combattre. Et donc, il y a bien l'idée de soutenir une vitesse moyenne. On connaît par exemple la distance que parcourait une troupe à l'époque romaine. On sait par exemple que les étapes de cavalerie, quand il y avait encore des chevaux dans les armées, c'était 60 km, dont 40 qu'on accomplissait sur le dos du cheval et 20 à pied. Alors je prends un autre exemple. Un chirurgien doit trouver le rythme qu'il peut soutenir sans que son jugement et son habileté subissent d'altération. S'il dépasse certaines limites, il met en danger ses patients, et s'il reste en deçà d'une certaine cadence, il laisse sans soin des malades qui auraient besoin de lui. Alors, ces deux exemples, celui de la ville assiégée, celui du chirurgien, soulignent que les morales de la vertu cherchent à être également attentives au bien des individus et à un bien collectif, justement parce que, selon elles, ils sont intimement mêlés. Alors, puisque j'ai parlé d'Aristote, je voudrais, sans pouvoir bien entendu reprendre les grandes analyses d'Aristote sur les vertus, donner une idée de l'atmosphère ou du style, du mode de description et d'analyse des vertus chez Aristote. Alors, Aristote donne des descriptions et des analyses du courage, de la modération, de la libéralité, de la magnificence, de la magnanimité, de l'honneur, de la douceur, de l'affabilité, etc. Bon. Mais il met aussi en évidence le fond de pénétration psychologique, de compréhension de la condition humaine, du sens de la vie organique et de l'amitié qui sont nécessaires à l'exercice de la vertu. Alors, nous n'arrivons pas d'emblée à la vertu. Aristote prend l'exemple suivant, c'est celui de la colère. Il dit « la colère semble bien prêter jusqu'à un certain point l'oreille à la raison », je le cite. « Mais elle entend de travers, à la façon de ses serviteurs pressés qui sortent en courant avant d'avoir écouté jusqu'au bout ce qu'on leur dit et puis se trompent dans l'exécution de l'ordre ou encore à la façon des chiens qui, avant même d'observer si c'est un ami, au moindre bruit qui se produit, se mettent à aboyer. » Ou encore, parlant de l'habitude, Aristote dit « Même l'habitude est difficile à changer, précisément pour cette raison qu'elle ressemble à la nature. » Alors, comme on l'a dit, la vertu est liée à la recherche du bien. Mais les morales de la vertu, comme l'expose Aristote en analysant le juste milieu, consiste à mobiliser entièrement les ressources dont on dispose en vue de reculer les limites du possible, autant que faire se peut. Donc la vertu ne se réduira jamais, par exemple, au courage, mais elle implique l'intelligence, le métier, la prudence, etc. Et c'est ce que Platon, dans les lois, appelle la vertu complète. Autrement dit, la vertu transforme le bien comme but en travail à réaliser et en fin de compte à tâche à accomplir. Et sans elle, le bien aperçu reste un possible inaccompli. Or, Maurice Blondel, dans L'Action, en 1893, fait l'observation suivante. L'exécution, dit-il, au-delà de l'attention qu'elle réalise, est une puissance originale et une fin nouvelle. Et il a, pour qualifier la vertu de l'action, cette formule étonnante, dans un latin d'ailleurs qu'il inventait. Quand il y a des phrases en latin chez Blondel, en général, ce n'est pas un auteur, c'est de lui. Alors, il dit, voilà, il y a une clarté attachée à chaque pas que l'on fait, lucerna pedibus. Quand on avance, on a comme une lanterne dans les pieds. Enfin, pas au milieu des gens, mais comme si on tenait une lanterne à la main, mais près des gens. Alors, le deuxième aspect que remarquent les gens qui ont étudié les morales de la vertu, c'est que, bien entendu, l'action comporte en général de l'incertitude et des risques. Et donc, maximiser les chances de mener à bien une tâche difficile exige que les agents fasse preuve d'une vertu qui unifie les caractères particuliers que sont le courage, la prudence, l'audace, l'intelligence, etc. En d'autres termes, les morales de la vertu ne sont pas séparables des morales du bien et du devoir, mais elles mettent l'accent sur les conditions concrètes de l'action. En effet, la vertu, c'est justement que l'agent se hausse de la simple conscience d'une tâche à accomplir jusqu'à la volonté et à la capacité d'agir. Et cette capacité d'agir, ce n'est pas simplement de voir le but, c'est de le réaliser. Et c'est là où apparaît une différence très intéressante entre la vertu antique et la vertu chrétienne. Et on peut voir très bien le passage à travers certains textes de saint Augustin qui s'inspirent justement de la théorie des passions des stoïciens. Et alors, il y a un passage très amusant de saint Augustin dans la Cité de Dieu où il cite le livre 19 des Nuits attiques de Lugel, dans lequel Lugel raconte ce que les passagers d'un bateau avaient observé. Il y avait à bord un sage stoïcien, extrêmement connu, un professeur de philosophie réputé, et une tempête éclate et tout le monde s'aperçoit qu'il montre les signes les plus nets au fond de la peur. Alors, plusieurs passagers se moquent un petit peu de lui, et Olugel, qui est un jeune homme très attentif, assez respectueux et tout ça, s'approche du philosophe stoïcien et lui dit « Mais qu'est-ce qui caractérise, au fond, la vertu stoïcienne ?» Et l'autre lui dit « Écoutez, nous sommes comme tous les hommes, donc nous avons peur, les signes physiologiques de la peur, nous les ressentons, etc. Mais ils ne troublent pas notre jugement et notre capacité de décider. » Bon, saint Augustin réfléchit sur là-dessus et il dit « Oui, mais il y a quelque chose qui cloche dans l'attitude du sage stoïcien, c'est que dans un cas pareil, la réaction qu'il aurait dû avoir, c'était de regarder si quelqu'un dans l'équipage ou dans les passagers n'avait pas besoin de lui. Et s'il avait eu cette attitude, d'une part, il aurait cessé d'avoir peur, et d'autre part, cette interaction était au fond la clé vraiment de la vertu. Et je crois que c'est ce point-là qui a été un point tout à fait décisif dans le passage au fond de la conception antique de la vertu à la conception chrétienne. Le point est double, un changement anthropologique, c'est-à-dire de dire la volonté et la liberté, ce n'est pas l'apanage du sage, mais c'est quelque chose qui définit l'homme en tant qu'homme, premier point. Et deuxièmement, la vertu n'atteint sa plénitude que par une interaction entre les hommes. Autrement dit, ce n'est pas l'individu comme entité séparée qui peut être vertueux ou pas, mais la vertu chrétienne n'existe que si, que liée à trois éléments qui sont parfaitement clairs. D'une part, à l'idée de communion des saints, à l'idée d'une interaction entre les êtres. Deuxièmement, à l'idée de corps qu'on a appelé corps mystique, mais très tardivement, au IXe siècle simplement. Mais quand on regarde par exemple l'apologie de Tertullien qui a été composée en 197 après Jésus-Christ, il dit « corpus sumus », nous sommes un corps. Je ne peux pas raconter, mais Tertullien se pose un autre problème, alors d'ordre anthropologique, il se dit « est-ce que il y a dans la vie humaine des sortes d'invariants et par exemple des vertus, au contraire des interdits, qui sont communs à toute l'humanité. » Et il prend l'exemple de la prohibition de l'inceste, auquel Lévi-Strauss a redonné. Et il dit, voilà, on croit que c'est quelque chose d'universel, et pourtant, la première fois où on a joué Œdipe roi en Macédoine, dans le haut des gradins, des spectateurs ont crié au pauvre Œdipe roi, à l'acteur, « Elone ten metera », ce que je n'ose pas traduire, mais ça veut dire « nique ta mère ». Bon. Alors, et Tertullien disait, ben, vous voyez, cette réaction du public, évidemment très minoritaire, ne donne pas une très bonne idée de l'universalité des interdits. En revanche, Tertullien, ayant écrit dans une période de persécution, fait une distinction qui est très intéressante. Il dit finalement, dans les périodes très dures, la vertu fait, ou plutôt les situations elles-mêmes, font apparaître un clivage qui est très net. C'est ceux qui se portent aux avant-postes et qui sont les témoins, et puis ceux qui restent prudemment en retrait, c'est-à-dire nous tous, sauf cas exceptionnel. Et il dit finalement, le problème du christianisme, c'est de faire en sorte que le lien entre les témoins, ceux qui se portent aux avant-postes, et ceux qui restent prudemment vers l'arrière, soit maintenu. Et saint Augustin, dans un très beau discours en l'honneur des martyrs de sainte Perpétue, je crois, dit ceci, « Si eo sequi non valemus actu, si nous ne sommes pas capables de les suivre en action, sequamur affectu, suivons-les par l'affection. Si non passionné, compassionné, si nous n'avons pas eu la passion qu'ils ont éprouvée, ayons pour eux de la compréhension et de la compassion. Si non excellentia, et si nous n'avons pas leur grandeur, connexionné, restons liés à eux. » Et donc, je crois que c'est un point, si vous voulez, qui est tout à fait caractéristique de cette distinction entre la conception antique et la conception chrétienne de la vertu, la conception chrétienne reprenant d'ailleurs la plus grande partie de l'héritage antique. Je disais en commençant que les morales de la vertu sont aussi des morales de la véracité et donc des morales très attentives au problème de la mauvaise foi. Or, les moralistes ont... Alors, mauvaise foi à l'égard de soi-même et à l'égard des autres, puisque les morales de la vertu étant une morale, étant des morales au fond de la recherche de ce pourquoi on est fait, de sa vocation, elles impliquent une lucidité à l'égard de soi-même. Et très curieusement, dans certains textes, saint Augustin appelle cette lucidité à l'égard de soi-même et d'autrui, il l'appelle prédestinatio, non pas du tout la prédestination au sens de notre destinée dans le monde à venir, mais au sens psychologique et moral d'une lucidité à l'égard de soi-même et des autres. Alors, Kant a réfléchi sur ce problème justement de la véracité et de la mauvaise foi. Et dans l'observation finale de l'étude intitulée « Sur l'insuccès de tous les essais philosophiques de Théodicée », Kant remarque « L'être humain, je le cite, même quand il veut agir par devoir, a beaucoup de peine à épurer ses intentions. » Et il poursuit en disant « Les hommes sont capables de simuler, même devant leur conscience, une conviction qu'ils n'ont pas, au moins au degré qu'ils prétendent, si cette mauvaise foi, qui enfante peu à peu une véritable conviction, peut avoir des conséquences nuisibles. Et de pareils actes de foi, ajoute-t-il, aveugles et extérieurs, auxquels vient très facilement s'ajouter un acte de foi intérieur également faux, amène de proche en proche et très rapidement, lorsqu'il procure des avantages, une certaine fausseté générale de l'opinion publique elle-même. » C'est-à-dire que ce que mettent en évidence ou ce que cherchent à mettre en lumière les morales de la vertu, c'est la vertu au sens, je dirais, politique, de savoir comment est-ce qu'une nation ou une collectivité ne peut pas se tromper sur sa vocation et ne peut pas finalement s'abîmer dans une sorte de duplicité qu'elle finit par prendre d'ailleurs pour de l'honnêteté. Et Kant ajoute, si Job, par malheur, avait comparu devant quelque tribunal de théologiens dogmatiques, devant un synode, une inquisition, une assemblée de vénérables, ou devant n'importe quel consistoire d'aujourd'hui, et alors il dit curieusement, mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, tout à fait, un seul excepté, je ne sais pas quelle est l'exception, il aurait été, selon toute apparence, en fort mauvaise posture. Alors, ce thème de la véracité, de la recherche de la lucidité, C'est un des points très forts de la philosophie et de la pensée française, au fond, du travail des moralistes. Et il est évident que les analyses que l'on trouve chez Montaigne, chez Pascal, La Rochefoucauld, Saint-Évremond, Champfort, La Bruyère, La Fontaine, Molière, etc., représentent une exploration qui se continue au XIXe siècle et au XXe siècle, et dont l'Académie française, d'ailleurs, est l'acteur, un des acteurs majeurs, mettent en évidence qu'il y a là une sorte de recherche à la fois très importante et très difficile. Et l'un des philosophes allemands qui a le plus admiré les moralistes français, c'est Nietzsche. Et dans le livre 5 d'Aurore, le fragment 462, qui s'intitule très curieusement « Cure lente », dit ceci « Les maladies chroniques de l'âme » et parmi lesquels le mensonge à soi-même est le plus important, les maladies chroniques de l'âme naissent comme celles du corps, très rarement de graves contraventions isolées à la raison du corps et de l'âme, mais bien plutôt à l'ordinaire d'innombrables petites négligences passées inaperçues. D'où, je crois, l'importance que donne l'Académie française à cette vertu dans la durée, si vous voulez. Et Nietzsche poursuit... Dans un cas de ce genre, le seul moyen d'arriver à la guérison est de pratiquer à nouveau d'innombrables petits exercices en sens inverse et de cultiver insensiblement d'autres habitudes. Ce qui donne au moral de la vertu deux versants assez différents, à la fois une réflexion sur les grandes actions, et c'est le cas, comme Madame de Romilly nous le disait tout à l'heure, des grands discours que l'on trouve chez Thucydide. Mais quand on regarde les 39 discours de la guerre du Péloponnèse et que l'on les compare au récit lui-même, la chose qui est la plus frappante, c'est la distorsion extraordinaire entre ce que les acteurs principaux ont dit ou ont voulu faire et puis ce que le cours des événements a réalisé. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, quand Platon réfléchit sur ce problème, à la fin des lois, dans le livre 12 des lois, il dit que, finalement, ce qui est le plus important pour une cité, comme pour l'individu, c'est d'acquérir ce que Platon appelle une connaissance parfaite. Et alors, il l'a défini d'une façon très curieuse. Il dit, ça ne peut pas être une modélisation abstraite des situations. Ça ne peut pas, c'est-à-dire un travail de l'intellect, du nous qui travaillerait, je dirais, d'une façon, purement spéculative dans un domaine des idées. Ça ne peut pas être non plus la perception seule, mais il faut que s'opère le mélange, la crasis, de l'intellect, nous, et des perceptions les plus belles, au point que l'un et l'autre ne fassent plus qu'un. C'est ce que dit Platon au livre 12 des lois, page 961. Pour insister sur ce point, qui va être repris d'ailleurs dans la vertu chrétienne, car ça indique cette crassis que finalement on peut interpréter ça comme une sorte de préfiguration de l'incarnation, l'idée que finalement l'homme n'est pas fait de deux parts séparées, le corps et l'âme, mais qu'il y a un mélange des deux. Et d'ailleurs le premier grand théoricien du mélange, c'est un membre de ce qui s'appellera plus tard l'Institut de France, un membre de l'Académie des sciences, Malebranche, qui va justement établir qu'il n'y a pas d'actes mentaux et même d'actes spirituels qui n'aient une trace dans le cerveau et dans le corps. Donc, pour terminer, je voudrais dire simplement que ce qui me paraît ressortir de ces analyses, c'est d'une part ce fait que la vertu n'est pas considérée comme l'apanage du sage, mais comme une sorte de devoir ou de proposition qui est faite à tout homme. Deuxièmement, que les morales de la vertu, et particulièrement dans la perspective chrétienne, insiste sur l'interaction entre les êtres. Troisièmement, que la philosophie s'est posé un problème peut-être insoluble. Est-ce que les vertus dites théologales, c'est-à-dire qui sont données par Dieu, la foi, l'espérance et la charité, peuvent être reprises par les moyens de la raison naturelle, par les hommes eux-mêmes? On peut dire que c'est un problème ouvert. Et enfin, peut-être qu'une attention particulière posée aux situations extrêmes, c'est-à-dire celles dans lesquelles ce clivage indiqué par Tertullien entre ceux qui vont aux avant-postes et ceux qui restent à l'arrière risque d'apparaître d'une façon éclatante. Et dans ces morales, comme je crois dans toute la grande tradition chrétienne, il est dit que finalement chacun ne doit pas compter, ne doit pas se considérer comme un atome séparé, mais comme quelqu'un de relié, suivant l'expression de saint Augustin, si non excellentia connexionné.
Vous venez d'entendre Bertrand Saint-Cernin de l'Académie des sciences morales et politiques s'exprimer lors de la journée d'études consacrée à la vertu. D'autres intervenants, académiciens et invités, Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancos, Jean Tullard, Alain Chartier, Philippe Mallory, ont également été enregistrés et vous les trouverez dans notre médiathèque. Il suffit de taper le mot « vertu ». ».